VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manirakiza en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. C'est votre rendez-vous du monde aujourd'hui, édition du 18 avril 2017, la deuxième de la soirée, dont voici d'abord les principaux titres. RDC, le gouvernement tente de faire la paix dans le Kasaï. Un nouveau chef coutumier a été désigné aujourd'hui. Attaque meurtrière contre l'armée dans le nord du Mali. Plusieurs militaires maliens ont péri. Les repentis de Boko Haram au Niger.
Il faut les déradicaliser. Mais également, on va procéder à l'information fonctionnelle à l'intérieur des camps. Parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi.
Vous retrouverez Nicolas Pineau sur place en Grande-Bretagne. Theresa May, chef du gouvernement, a convoqué par surprise des législatives anticipées le 8 juin. Et l'actualité sportive et économique, c'est dans votre journal. Merci de votre fidélité. Un nouveau chef coutumier dans le Kasaï en RDC, Jacques Kabeya Ntumba, succède à Kamuina Nsapu. L'assassinat de ce chef traditionnel avait provoqué des violences dans la région. Le point avec Eddie Isango.
Jacques Kabeya Ntumba succède donc à Pierre Mpadi, dont le nom de règne était Kamuina Nsapu, nom également attribué à la milice qui se bat depuis que son leader a été assassiné en août dernier par les forces de l'ordre. La désignation du nouveau chef coutumier de Bajila Kasanga intervient trois jours après la remise de la dépouille de Kamuina Nsapu à sa famille, comme l'exigeait entre autres la milice. Il a été enterré dans son village. Un porte-parole de la famille régnante a déclaré solennellement la fin de la guerre contre les gouvernements à la télévision d'État. Un calme précaire a été observé à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, mais des tirs ont été entendus hier dans la périphérie de la ville.
Toujours en RDC, destitution aujourd'hui du gouverneur de la province du Haut-Katanga pour mauvaise gestion. C'est à la suite d'un vote d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale à Lubumbashi. 24 députés présents ont approuvé à l'unanimité pour la destitution du gouverneur Jean-Claude Kazembe. L'opposition en colère accuse le régime Kabila de multiplier les manœuvres pour retarder l'organisation des élections. Apparemment, une journée de destitution dans ce pays. Le géant de l'Afrique centrale, le chef de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, a été relevé de ses fonctions visées par des sanctions financières européennes et américaines. Il a été remplacé par l'un de ses adjoints. Les raisons de ce limogeage n'ont pas été précisées. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé aujourd'hui les slogans de la Ligue de jeunes du parti au pouvoir au Burundi qui appellent au viol d'opposantes. Monsieur Zeid Rad Al-Hussein estime qu'il s'agit d'une preuve supplémentaire de la campagne de terreur menée par les jeunes Imbonerakure. Double attaque contre les forces maliennes à Rarous, dans la région de Tombouctou, et les casques bleus de la MINUSMA à Tessali. Le représentant de l'ONU au Mali a condamné fermement ces attaques qu'il qualifie de lâches. La correspondance de Boubacar Touré à Gao.
Tôt ce matin, des hommes armés non identifiés ont attaqué le camp militaire des Fomans et de la garde nationale à Rarous, situé à 120 km à l'est de Tombouctou, sur la rive droite du fleuve Niger. Le bilan fait état de 5 tués, dont 4 soldats maliens et une fillette, 3 véhicules militaires brûlés et plusieurs blessés. Les populations effrayées sont restées toute la matinée terrées chez elles. La MINUSMA a déployé des hélicoptères d'attaque en appui aux forces maliennes pour faciliter l'évacuation médicale des blessés par voie aérienne. À Tessali, toujours ce matin, à 30 km au sud de la ville, 3 personnes, dont 2 casques bleus et un civil, ont été grièvement blessées par l'explosion d'un engin improvisé au passage d'un des véhicules du convoi. Le représentant du secrétaire général de l'ONU au Mali a condamné fermement cette double attaque perpétrée contre la MINUSMA et l'armée malienne dans le nord du pays. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Nigeria, une attaque de Boko Haram a tué 5 soldats. Les djihadistes ont mené un raid hier soir contre un poste de contrôle militaire dans le nord-est du pays. Et reprise aujourd'hui des vols commerciaux à l'aéroport d'Abuja au Nigeria. Il était fermé depuis le 8 mars pour réhabiliter la piste d'atterrissage, perturbant le trafic dans la région. Morgane Guiriek.
Abuja, la capitale du Nigeria, est aussi un centre politique et d'affaires. La fermeture de son aéroport pendant 6 semaines a donc entraîné bon nombre de tracas. Les vols ont dû être détournés vers l'aéroport provincial de Kaduna, mais de nombreuses compagnies comme British Airways, Lufthansa et South African Airways avaient refusé d'utiliser cet aéroport par mesure de sécurité. Ethiopian Airlines était donc la seule compagnie étrangère à atterrir à Kaduna pendant la fermeture de l'aéroport d'Abuja. Les autres compagnies empruntaient l'aéroport de Lagos, la capitale commerciale. Il n'y a pas eu d'estimation officielle de l'impact économique de la fermeture de l'aéroport d'Abuja.
Morgane Guirier, au Niger, la justice a libéré Michael Zodi, responsable au pays de la coalition internationale, tournant la page pour la démocratie en Afrique. Arrêté le 5 avril, il était poursuivi pour concussion. Le ministère de l'enseignement secondaire l'accuse de toucher son salaire sans travailler. Mais la justice estime que les faits ne sont pas constitués. Au Burkina Faso, l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, dénonce le procès du gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré qui doit s'ouvrir le 27 avril prochain. L'équipe dirigée à l'époque par Luc Adolphe Thiaw est accusé de complicité d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 à l'origine de la chute du régime. Le chef de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, a comparu aujourd'hui devant un tribunal de Lusaka pour répondre à des accusations d'insultes et refus d'obtempérer à une injonction policière. Il a dénoncé un comportement criminel de la police lors de son arrestation en prison depuis une semaine. Il est également poursuivi pour trahison, un crime passible de 15 ans de prison à la peine de mort. Et en Guinée équatoriale, deux militants des droits de l'homme sont détenus au commissariat central de Malabo, surnommé localement Guantanamo. Ils dirigent le centre d'éducation et d'initiative pour le développement de la Guinée équatoriale. L'ordre est venu du ministère de la Sécurité nationale. Ils sont reprochés de violer la suspension des activités de l'organisation prise en mars dernier et d'avoir célébré les 14 et 15 avril à Malabo les 20 ans de l'association. Enfin, la police égyptienne a arrêté un nouveau suspect dans les deux attentats contre des églises coptes revendiquées par le groupe État islamique. Ces attaques ont fait 45 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Décision surprise aujourd'hui du Premier ministre britannique. Theresa May a appelé à la tenue des législatives anticipées pour le 8 juin. Elle vise à renforcer sa majorité pour des négociations du Brexit. Les précisions de John Lyndon.
Les divisions du Parlement de Westminster menacent nos chances de faire du Brexit un succès. Tenir ces élections est l'unique moyen d'assurer la stabilité pour les années à venir, a-t-elle expliqué dans une déclaration. Pour valider la tenue de ce scrutin normalement prévu pour 2020, Mme May doit obtenir demain l'aval du Parlement à la majorité des deux tiers. Cela ne devrait poser aucun problème puisque le leader de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a immédiatement accueilli favorablement cette annonce. La perspective d'élections anticipées et le scénario possible d'un premier ministre conforté par un vote populaire a aussitôt fait grimper la livre sterling qui a atteint son plus haut niveau en deux mois face au dollar. Côté Union européenne, le scrutin anticipé ne change pas les plans selon un porte-parole du président du Conseil européen. Les négociations sur le Brexit devraient commencer fin mai, début juin, pour un début de divorce effectif prévu en mars 2019.
John Lyndon. En Turquie, le principal parti d'opposition a officiellement demandé aujourd'hui l'annulation du référendum sur la révision constitutionnelle. La nouvelle version renforce les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan. Le gouvernement a aussitôt rejeté un appel de Bruxelles à enquêter sur des irrégularités présumées. L'utilisation des bulletins non marqués du sceau officiel des autorités électorales est à l'origine de ce contentieux. Au Yémen, la chute d'un hélicoptère a tué aujourd'hui 12 soldats saoudiens. La coalition militaire arabe qui intervient dans son pays n'a pas fourni les causes de la chute de l'aéronef. En Syrie, les forces anti-djihadistes soutenues par les États-Unis ont créé aujourd'hui un conseil civil pour gérer la ville de Raqqa. C'est en perspective de la reprise de cette ville septentrionale sous occupation d'un groupe État islamique. De nombreux chefs tribaux et dignitaires issus de Raqqa ont participé à l'annonce de la mise en place du comité. Human Rights Watch a dénoncé la mort des dizaines de personnes en mars dans une frappe américaine sur une mosquée syrienne. Leur aide visait une réunion de chefs de Al-Qaïda selon le Pentagone. Et le président américain Donald Trump signe aujourd'hui à Kenosha dans le Wisconsin un décret pour réformer l'attribution des visas pour travailleurs qualifiés. Il vise aussi à donner corps à son slogan « Acheter américain, embaucher américain ». Mais sa marge de manœuvre reste limitée en l'absence de réformes d'ampleur au Congrès. Les États-Unis et la Chine travaillent étroitement sur le dossier nord-coréen, affirmation du secrétaire américain à la Défense, alors que la tension monte dans la péninsule coréenne à cause du programme nucléaire de Pyongyang. C'était votre journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique, suivez la chronique de la Muniteco avec Claire Morin-Gibourg.
Le Cameroun a besoin de 48 000 enseignants pour combler le déficit de professeurs dans les lycées et collèges, d'après les chiffres publiés aujourd'hui par le ministre des Enseignements secondaires. Pour résorber le déficit, il faudrait recruter en moyenne 5 000 enseignants chaque année sur 10 ans. Une situation aggravée par le déséquilibre entre ville et campagne. Yaoundé, la capitale, enregistre un surplus de 3 000 enseignants selon les statistiques ministérielles. Le PASI, ou projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique subsaharienne, a été lancé hier à Bamako en présence de Tiémoko Sangaré, ministre malien des Mines. Les principaux pays ciblés pour le projet sont le Burkina, Madagascar, le Mali et le Cameroun. Cette initiative régionale de 5 ans a pour but d'améliorer la gouvernance, la transparence et la reddition des comptes dans le secteur extractif afin de contribuer à une meilleure croissance économique durable. Le Fonds monétaire international a annoncé aujourd'hui une prévision de croissance de 2,6% en Afrique subsaharienne en 2017. La Côte d'Ivoire ou le Sénégal affichent des prévisions de 5 à 7% de hausse de leur PIB en 2017. Derrière l'Éthiopie qui caracole en tête avec une croissance de 7,5% prévue en 2017 et 2018 selon le FMI.
Voilà, pour vous détendre un peu, nous passons au sport avec Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Eric.
On ouvre avec la RDC, Pamphile Mihayo, nommé entraîneur du TP Mazembe.
Effectivement, depuis 2008 et la fin de l'aventure avec Santos Mutimbile, le TP Mazembe n'avait plus été dirigé par un Congolais. À 40 ans, il avait assuré l'intérim après le départ des deux Français. Depuis 2012, Moïse Katumbi, le président des Corbeaux, avait uniquement misé sur des Français, effectivement, comme le vainqueur de la Ligue des Champions en 2015, Hubert Velu, ou encore le vainqueur de la Coupe de la CAF en 2016, Thierry Froger, arrivé en février dernier et reparti un mois plus tard.
Un mot sur la Ligue des Champions.
La principauté de Monaco a pris des mesures de sécurité renforcées à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions de football de l'AS Monaco contre le Borussia de Dortmund. Barcelone au bord du gouffre, lui, balayé 3-0 par la Juventus Turin. Le Barça est condamné à une nouvelle remontada mercredi en quart retour de Ligue des Champions à 20h45 avant un vertigineux classico au sommet de la Liga dimanche face au Real Madrid.
C'est dans quelques heures, Tatiana. Un Indonésien, Michael Essien, interdit de jouer faute de permis de travail.
Et oui, Michael Essien, l'ancienne gloire de Première Ligue, a été interdit de jouer par son nouveau club, qui est l'un des plus grands clubs du pays. Le club a reconnu qu'il n'avait pas terminé les démarches administratives, mais affirme que la fédération de la Ligue avait donné aux joueurs la permission de jouer. Essien et son partenaire Cole ne pourraient pas jouer tant qu'ils n'auront pas leur permis de travail.
Dopage, l'ex-médecin de Mo Farah, auditionné aujourd'hui par des parlementaires britanniques.
Et oui, le docteur qui aurait administré à l'athlète britannique Mo Farah un complément alimentaire controversé va être auditionné. Sport, médias, culture de la Chambre des communes qui s'intéresse au dopage dans le sport. L'ancien médecin de la Confédération d'athlétisme britannique aurait administré au quadruple champion olympique une préparation en intraveineuse de L-carnitine, un brûleur de graisse selon un rapport de l'agence américaine antidopage.
Oui, et en NBA, les favoris sont au rendez-vous rendez-vous des playoffs. Cleveland et San Antonio ont arraché leur deuxième victoire face à Indiana et à Memphis Grizzlies. Merci Tatiana.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington, pour aborder la seconde partie de votre édition. En RDC, va-t-on vers l'apaisement dans le Kasaï? Un nouveau chef coutumier a été désigné pour succéder à Kamuina Nsapu. Son assassinat en août 2016 a déclenché des violences. Son corps a été déterré et remis à sa famille, comme l'exige la milice qui porte son nom. Pour analyse, Eddy Issango a joint l'ancien vice-gouverneur du Kasaï occidental, Jerry Ngandou.
Gouverner, c'est prévoir. Pourquoi est-ce que le chef de l'État devrait attendre jusqu'à 7 heures pour devenir un sapeur-pompier et dire voilà, j'ai donné un chef coutumier, voilà, je dois vous rendre compte. Le gouvernement de Kinshasa avait reconnu avoir tué le chef coutumier de Bajila Kassang. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis les corps? Ces corps, depuis longtemps, devraient être enterrés selon le rite et les coutumes des Kassaïens. Ce n'est pas aujourd'hui que cela doit se faire. Donc, ça, c'est un manque de leadership cohérent pour gérer la chose publique.
Un nouveau chef a aussi été nommé. Est-ce que vous pensez que cela va amener la paix dans le Kasaï?
Je ne pense pas que cela puisse amener la paix actuellement parce que ça devient un mouvement national. Ce mouvement a commencé à Kananga. Aujourd'hui, on me dit qu'à Luebo, ça barbe, on a tué, on est en train de piller. Et même, comme si cela ne suffisait pas, les chefs de l'État déployaient encore les militaires rwandais dans la province pour tuer le reste des Kasaïens. Ça ne peut pas amener la paix.
Et comment vous expliquez cette transformation d'un mouvement qui était purement tribal à un mouvement plutôt qui a des revendications politique. Il y en a qui demandent carrément l'application des accords ou la nomination de Félix Tshisekedi comme premier ministre au Congo.
Ce mouvement, c'est l'œuvre même de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'il fallait, ils ont minimisé l'affaire en disant non, ils ne vont rien faire. Parce que de par notre nature, les Kassaïens, on nous considère comme les jussaires, les gens qui font leur trafic de diamants et ainsi de suite et qui ne peuvent pas combattre. Voilà là où ils ont amené aujourd'hui. C'est un mouvement purement tribal, mais qui a pris de l'ampleur au niveau national. On sait que le chef de l'État n'a plus de pouvoir, on lui demande d'opérer selon les accords de la CENCO, il dit non, il va prendre l'aventurier comme Badi Banga, il va mettre là-bas. Est-ce que vous pensez que ça fait ramener la paix?
Monsieur Félix Tshisekedi, qui est fils du leader de l'opposition, a annoncé que son père sera enterré ces mois-ci, mais dans les Kassaï, dans cette région-là. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas amener d'autres tumultes?
Que Monsieur Félix ne puisse pas s'entêter, parce qu'il ne s'agit pas de son père, il s'agit d'un père de toute une nation qui doit être enterré en dignité selon ce qu'il avait mené comme lutte.
Mais finalement, les gens se demandent qui était celui qu'on appelait Kamuina Nsapu pour être à l'origine d'un tel mouvement avec autant de morts.
Le Kamuina Nsapu, c'est l'enfant d'un grand chef coutumier de Bajila Kassang dans la province du Kasaï occidental. C'est un grand chef coutumier qui a été tué par Boshab et Kande pour faire plaisir à M. Joseph Kabila. Et c'est lui qui devrait remplacer. On devra respecter le testament. Mais lorsque M. Boshab va mettre quelqu'un de son obédience politique du PPRD, c'est là où tout a dégénéré.
Jerry Ngandou au Congo.
Restez branchés sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Tchad, trois leaders de la société civile arrêtés par l'Agence nationale de sécurité sont toujours détenus dans des prisons secrètes. Les organisations pour la défense des droits de l'homme au Tchad exigent leur libération. L'ONG française Survie dénonce des arrestations arbitraires. Le point avec André Kodmajingar.
Arrêtés les 6, 12 et 14 avril dernier par les agents de l'ANS, les trois leaders de la société civile, notamment Nadio Kaina, Bertrand Solongandjei du mouvement citoyen INA et Dingam Nael, Nili Versinis du collectif tchadien contre la vie chère, ne sont pas présentés à un juge ni à leur avocat. Une situation qui préoccupe leurs parents et les défenseurs des droits de l'homme. Maître Midai Girimba est le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Pour lui, le Tchad est un pays informel.
Nous venons de découvrir qu'un décret sien de président de la République en février dernier, donne les pouvoirs à l'Agence nationale de sécurité, qui est une police d'espionnage et de contre-espionnage, de procéder aux arrestations des gardes des citoyens. Et jusqu'à aujourd'hui, ni le ministère de l'administration du territoire, ni le ministère de la sécurité publique, moins encore l'Assemblée nationale, personne n'a daigné informer l'opinion sur quelle est l'infraction qui est reprochée à ces jeunes-là. Moi, je pense, en tant que défenseur des droits de l'homme, que notre pays a abandonné la lutte pour la démocratie, pour les libertés, pour s'inscrire résolument dans la dictature. Dans les jours à venir, nous serons dans l'obligation de déposer des plaintes contre certaines personnalités pour non-assistance à personne danger, pour enlèvement et autres. Le Tchad a beaucoup souffert et il faut permettre aux Tchadiens de s'exprimer et de faire en sorte que nous vivions ensemble sans entrer continuellement dans le processus de la guerre civile.
Si l'infraction pour laquelle les trois leaders détenus ne sont pas notifiés, tout porte à croire, selon le mouvement citoyen INA, que l'arrestation de son porte-parole Nadio Kaina serait liée à son engagement dans la campagne internationale Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique, section du Tchad. Pour les observateurs avertis, l'ANS relève directement de la présidence et donc seul le président Déby est habilité à se prononcer sur le sort des détenus, car les institutions de la République ont montré leurs limites face aux agissements de ces agents qui terrorisent la population. Réaction de Gombo Ahmed Gombo, coordonnateur du collectif citoyen Tournez la page.
L'ANS, c'est une équipe de militaires sans formation. Comme disait Thomas Sankara, un militaire sans formation, c'est un criminel. Nous leur demandons la libération d'urgence de nos collègues. Sinon, dans les jours à venir, on ne va pas rester bras croisés. Et si chaque personne parle, il cherche à l'enfermer, il faut qu'il construise d'autres cellules. Il faut que le président assume sa responsabilité.
Certains responsables des organisations des droits de l'homme et les leaders de jeunes se disent très inquiets de la situation et craignent pour leur sort. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Niger, un centre pour ex-combattants de Boko Haram a ouvert ses portes depuis décembre dernier à Diffa. Parallèlement, la force régionale traque toujours les éléments djihadistes le long de la frontière entre ce pays et le Nigeria jusqu'au lac Tchad. Nicolas Pino, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, s'est rendu sur place pour rencontrer les repentis de Boko Haram. Son reportage.
Un peu à l'écart de la route principale, derrière la section antiterroriste de Diffa, trois bâtiments passeraient presque inaperçus, mais les fils barbelés qui les entourent et les militaires armés de Kalachnikov à l'entrée donnent le ton. Voici le centre de transition des repentis de Boko Haram. 150 personnes sont là, des ex-combattants en majorité et à l'écart leurs épouses et des enfants. Le centre a ouvert en décembre dernier et dans le bâtiment des hommes, quelques visages menaçants mais aussi des adolescents, pas franchement combattants. Ibrahim Malam Toura a été enlevé lorsqu'il avait 12 ans. Il a passé 2 ans à étudier le Coran version Boko Haram avant de pouvoir s'enfuir.
Un vendredi, mon père m'a demandé d'aller au champ et a dit qu'il me rejoindrait après la prière. 2 hommes en moto sont venus et m'ont kidnappé en disant que je risquais de devenir un délinquant.
Le Niger affirme que la victoire contre le groupe djihadiste ne peut pas se résoudre que par la voie militaire. Un centre permanent de déradicalisation doit ouvrir dans quelques semaines à Goudoumaria. Dandano Mahamoudou Lawali est le gouverneur de la région de Diffa.
C'est les efforts de l'État, c'est vraiment un financement étatique. C'est l'État qui prend tout en charge. Nous sommes en train de construire un complexe qui va comprendre une administration, des dortoirs. Vraiment, c'est un complexe dans lequel on va procéder d'abord à une déradicalisation. Il faut les déradicaliser. Mais également, on va procéder à une formation professionnelle à l'intérieur des camps parce que c'est généralement des jeunes qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'emploi. Mais après, il faut procéder à une réinsertion sociale.
Les 150 personnes qui s'entassent dans le centre de transition déménageront bientôt vers Goudoumaria, mais certaines ne demandent qu'à retrouver la liberté. Parmi elles, Fatima Ibrahim, 20 ans. Elle a été kidnappée il y a 4 ans dans la région de Maïdougouri, au Nigeria.
Moi, j'espère vite rentrer au Nigeria. J'ai été mariée de force à des combattants de Boko Haram et mes parents ne savent même pas que je suis là.
Beaucoup d'ex-combattants de Boko Haram nient leurs atrocités ou minimisent leur implication. Impossible de savoir qui dit la vérité. Malam Boukar Adam est un ancien enseignant ayant rallié Boko Haram. Il dit avoir été médecin pour le groupe djihadiste.
J'ai quitté Boko Haram parce qu'il y avait des dissensions. Le groupe de Shekau et celui de Mamanou se sont battus 6 fois. C'est une question d'idéologie. L'islam est une religion de paix. Un bon musulman n'a pas à tuer les gens.
Beaucoup de repentis de Boko Haram décrivent un mouvement sur le déclin, mais il faudra encore de longues années pour défaire l'idéologie que les djihadistes ont semée dans la région. Et Nicolas Pinault depuis Difa pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Mauritanie, le torchon brûle entre les poètes et le président Mohamed Ould Abdelaziz. Il estime qu'il est plus avantageux que les jeunes des universités se tournent vers les filières scientifiques pour contribuer au développement du pays. Solange Nyamulisa a joint Kissima Diagada, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Tribune.
On peut parler de conflit d'humeur entre le président et les poètes. On reprocherait notamment au président de ne pas porter beaucoup d'attention et d'importance à ces gens qui s'occupent un peu de la poésie en Mauritanie, compte tenu du fait qu'on le présente comme étant celui qui donne beaucoup plus de priorité à la science, aux matières techniques. Parler de grève des poètes, grève par rapport à quoi? Grève pour dire que nous n'allons plus produire de poésie ou pour dire que nous allons, si vous voulez, exprimer quelque chose à travers cela. En tout cas, je ne vois pas du point de vue des faits, ou bien du point de vue surtout des conséquences sur le développement immédiat, ce que ça peut représenter.
Quelle est l'importance de la poésie en Mauritanie?
Il faut dire qu'en Mauritanie, on est une société où l'expression, c'est-à-dire la force de la parole, est très marquée. Nous avons plusieurs communautés en Mauritanie, la communauté arabe, la communauté négro-africaine qui est composée de communautés Peul, Soninké et Wolof. Donc, chacune de ces communautés-là a ce côté littéraire où on donne beaucoup plus de valeur à l'oralité. Notamment dans le milieu moor, par exemple, qu'on appelle le rneur, c'est-à-dire la poésie, la parole chantée, elle permet d'exprimer toutes les situations, que ce soit les situations lyriques, que ce soit les situations purement sociologiques ou des situations guerrières et tout ce que cela peut comporter. Ce n'est même pas par hasard qu'on a appelé la Mauritanie le pays au million de poètes. La poésie est très importante pour les populations de toute génération en Mauritanie, mais cela n'exclut pas le fait que la demande aujourd'hui sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, est telle que certaines autorités considèrent en tout cas qu'il faut donner dans l'éducation plus de priorité aux matières scientifiques et faire comprendre aux populations qu'on ne peut pas développer le pays par la poésie. Mais c'est une question culturelle. Vous savez, les questions culturelles sont très sensibles et y toucher risque aussi de porter atteinte, si vous voulez, à tous les gens ont comme valeur, à tous les gens ont comme patrimoine à conserver.
Kissima Diagana à Nouakchott.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Adrenaline Fitch, encore. Kicho qui saïde qui a ma ungwa. Mike Makema, Rabi Service. Autorité Vital Sunsu.
Un projet à courir au Badounia. Avant un piqué, on se couche, bon toi que Bazouri n'a pas baya. Il sera étonné à ta changabille, ta quoi coucou taï côté. Bakoumi est sous Achachicheko.
Achachicheko,
soit dépêché.
Allez, pêché.
Tu vois, tu caouilles.
C'était Fitch One. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer et d'être heureux. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, le mix Lumami, à la présentation, à la présentation Eric Manirakiza.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.